Bonjour frères et sœurs, nous voici à nouveau pour ce dimanche 5 avril 2020. J'aimerais, avant de partager la parole avec vous, j'aimerais prendre un instant de prière ensemble. Père Céleste, nous nous approchons du trône de la grâce, nous nous approchons du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Dans ce jour qui, Seigneur, nous avons l'habitude de nous retrouver pour louer, pour glorifier ton nom, Seigneur, nous sommes encore dans cette circonstance de confinement. Dans ta sagesse, dans ta bonté, tu connais les raisons et tu sais aussi les buts, Seigneur, que tu veux produire dans le cœur de chacun d'entre nous pendant ce temps. Mais Seigneur, nous te prions pour notre nation. Nous te prions, Seigneur, pour nos voisins, pour nos amis. Nous te prions pour les autorités de la ville, mais aussi les autorités du pays. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont en train d'intervenir pour aider ceux qui sont dans la souffrance. Seigneur, nous te prions que ta main soit sur chacun. Nous invoquons ton secours, nous invoquons ta grâce. Nous appelons à toi, Seigneur, pour notre pays. Seigneur, merci parce que nous comptons, Seigneur, sur l'action de ta main. Et encore ce matin, nous nous approchons, Seigneur, de ta parole avec foi, avec confiance, avec assurance. Seigneur, nous aussi, Seigneur, ce matin, nous pouvons dire, toi seul as des paroles de vie. Seigneur, merci encore de toucher nos cœurs, de toucher notre âme encore ce matin et nous encourager, Seigneur, davantage à nous approcher de toi, mais nous encourager, Seigneur, à tenir dans le temps, dans la paix, dans la confiance. Merci, Seigneur. À toi, toute la gloire et l'honneur. Amen. Depuis un certain temps, il y a un mot qui revient continuellement, c'est le mot « effort ». Il nous est demandé de faire des efforts. Beaucoup sont en train de faire des efforts sur le plan humain, sur le plan sanitaire, sur différents secteurs qui seront nécessaires aujourd'hui et chacun de nous, nous sommes appelés à faire un effort. La parole de Dieu nous invite aussi à des efforts qui vont dans la volonté de Dieu. Et j'aimerais avec vous partager sur ce mot effort, effort utile, non pas des efforts dans des choses qui n'aboutissent pas, mais le Seigneur nous engage à faire des efforts pour avancer, pour nous encourager, pour nous fortifier. Et pour cela, ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte de 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 15. Je répète, 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui parle en nous disant ceci. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hymen et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur et qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Ce mot « efforce-toi », c'est ce que le verset 15 nous partage. et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. L'effort montre bien qu'il y a un acte qui doit être accompli, et cet acte fait qu'il y a besoin de doubler, je dirais d'énergie, comme si quelque chose, en effet, essayait de nous retenir, de nous empêcher, voire même nous faire tourner dans d'autres directions. Mais l'apôtre Paul encourage Timothée, un homme qui s'était donné à Dieu, un serviteur de Dieu, et c'est l'encouragement d'un aîné, un jeune serviteur de Dieu, en lui disant « Efforce-toi ». En lisant ce texte, je me suis dit si Timothée avait besoin de ces encouragements, à combien plus grande raison nous aussi, encore aujourd'hui, nous avons besoin de nous entendre ces encouragements à nous présenter devant Dieu. Certes, les épreuves qui ont touché Timothée et la première Église sont peut-être différentes des nôtres, mais néanmoins, dans cette période que nous connaissons, mais je dirais tout au long de notre vie, cet encouragement résonne dans notre cœur à nous présenter devant Dieu, pas n'importe comment. Le texte dit comme un homme éprouvé, qui n'a point à rougir et qui marche dans la vérité. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, à partir du verset 24, Luc 13, 24, il est question encore de nous efforcer. Si le texte que nous avons lu tout à l'heure nous invite à nous efforcer pour nous présenter devant Dieu, l'évangile de Luc, c'est Jésus lui-même qui reprend ce mot et qui dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous. » Ouvrier d'iniquité. L'effort qui est demandé à Timothée, ce même effort qui nous est demandé, c'est comme une forme d'empressement, un encouragement à ne pas perdre de temps, mais à saisir l'occasion qui est devant nous pour nous présenter devant Dieu avant que ce soit trop tard, avant que cette porte soit fermée, avant qu'il y ait un isolement. Certains se retrouveront avec Dieu pour l'éternité, d'autres seront isolés de Dieu, écartés de Dieu, éloignés de Dieu, non pas parce que Dieu ne les a pas aimés, non pas parce que Dieu n'a pas tout mis en œuvre pour eux, pour leur salut, mais ils n'ont pas saisi l'importance de se présenter devant Dieu comme quelqu'un d'éprouvé. Un ouvrier qui agit d'une manière droite, véritable, juste, sainte. Certes, l'évangile de Luc nous parle de ses propos, je dirais presque ses excuses, voire même une forme de preuve à dire « mais nous avons fait, nous avons accompli certaines choses, mais si nous regardons bien les propos, il dira « nous avons mangé et bu devant toi ». Il n'a pas été question de le servir, mais je dirais presque de se faire servir. Tu as enseigné dans nos rues, mais qu'est-ce qui a été retenu de cet enseignement? On peut comprendre pourquoi la voix du maître répondra « Je ne vous connais pas, éloigne-vous de moi. » Nous présenter devant Dieu comme un homme, comme une femme éprouvée, quelqu'un qui a fait ses preuves, quelqu'un qui a pris une décision et qui s'est engagé auprès de Dieu à marcher d'une manière digne de ce que Dieu nous demande. Deuxième chose, Paul dira à Timothée, garde-toi, évite les discours vains et profanes. Oh les discours! Plus que jamais, on entend bien des discours. On entend les considérations des uns, les propos des autres. On entend des thèses, des contre-thèses. On entend qui est pour, qui est contre. Paul dira à Timothée, garde-toi d'entamer des discours profanes qui n'amènent nulle part et qui, par leur attitude, ceux qui le font, ceux qui tiennent ce type de discours, avanceront toujours plus loin dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. C'est une infection qui vient, qui détruit les tissus, qui détruit en réalité les membres et qui, s'il n'y a pas une coupure, s'il n'y a pas véritablement une coupure de ce membre qui est déjà pris par la gangrène, il entraîne la mort. Et l'apôtre Paul parlera de deux personnes, d'Hymen et Philette, et dit « ils se sont détournés de la vérité » en arrivant à présenter une théologie, des discours qui ne sont pas cohérents par rapport à ce que la parole de Dieu enseigne. Garde-toi. On entend et on reçoit des messages de tous côtés, avec certains des avertissements et d'autres des répréhensions. Certains sont justes, dignes d'être écoutés, considérés. Mais nous devons reconnaître qu'il y a aussi des choses qui n'ont aucun appui biblique, spirituel. Et l'apôtre Paul dit déjà à Timothée de son temps, garde-toi. Est-ce que les mots de l'apôtre Paul ne sont pas valables pour nous aujourd'hui encore en nous disant gardez-vous? N'avons-nous pas aussi la responsabilité d'éviter certains propos, certains discours, certains sujets qui ne sont pas cohérents à ce que la Bible, elle, enseigne? Beaucoup ont des explications, mais soyons conscients que la vérité est détenue dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vérité. Et c'est sur cette vérité que nous devons appuyer notre vie. Et c'est cette vérité, cette parole de Dieu, qui a pour nous aussi ce rôle de bouclier pour nous protéger. Et tant que nous partageons la parole de Dieu telle qu'elle est, dans son intégralité, sans retrancher, sans découper, sans édulcorer, mais assaisonner toujours de l'amour de Christ, assaisonner toujours de cette bonté dont Christ a fait preuve pour chacun de nous à la croix. Nous sommes conscients de ces mots que Jésus prononcera, des mots forts, où il dira, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, par ses propos, a voulu encore nous garder dans cette possibilité, cette espérance de pouvoir venir à Dieu. Nos actes étaient condamnables. Nos actes sont encore aujourd'hui condamnables. Si nous marchons et nous vivons dans le péché lui-même nous condamne. Non, ce n'est pas Dieu qui nous condamne, c'est nos actes. C'est nos actions. Nous sommes jugés par rapport à nos actes, nos actions, nos décisions. De la même manière que nous sommes pardonnés, si nous venons à Dieu, le juste juge, mais aussi ce Père, ce Dieu, qui vient avec un acte de pardon, avec une volonté, un désir de nous pardonner, s'il retrouve dans notre cœur une véritable repentance. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il communique, pas seulement à Timothée, mais encore à notre génération aujourd'hui. À partir du verset 19 de notre lecture, on voit cette parole de l'apôtre Paul qui insiste dans la direction, on pourrait dire, « donne-toi ». Mais relisons ce texte du verset 19 et 20, il dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns, c'est des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Paul est en train de dire à Timothée, « Donne-toi entièrement. » Pas de partage. Dieu ne veut pas du 50-50. Il veut que nous lui appartenions pleinement, que nous soyons capables de faire preuve de renoncer à nous-mêmes pour nous donner à lui, pour nous offrir à lui. Le texte dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Appartenir à quelqu'un, ce n'est pas une location, c'est une appartenance. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui se met sur cette protection, il doit s'éloigner de l'iniquité. En Romains chapitre 6, versets 10 à 13, Romains chapitre 6, versets 10 à 13, nous lisons ainsi vous-même. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. L'exhortation de l'apôtre Paul, c'est donnez-vous vous-même à Dieu. Livrez-vous à Dieu. Offrez-vous à Dieu. Prenez cette décision personnelle. En aucun cas Dieu nous arrachera. En aucun cas Dieu nous forcera. En aucun cas Dieu nous obligera. Mais il demande un acte et une décision personnelle. Et l'apôtre Paul insiste sur cette nécessité de nous offrir nous-mêmes. De ne pas nous livrer au péché, à l'iniquité. Mais de devenir entre les mains de Dieu, par la grâce de Dieu, par le secours de Dieu, des instruments de justice. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 21, il y a quelque chose qui fait partie de la loi que Dieu avait donnée à Moïse, qui me semble intéressant de considérer ensemble. Exode, chapitre 21, versets 5 et 6. Dans ce texte, Moïse parle de cette volonté, de ce désir pour quelqu'un qui se retrouvait esclave. Cet esclavage était souvent lié au fait de devoir rembourser une dette. Quand la personne n'était pas dans les conditions de rembourser cette dette de manière pécuniaire, il se devait de la rembourser par son propre travail. Donc il devenait redevable à celui qui lui avait prêté l'argent, et il devenait esclave pour une période de temps. Mais dans l'éventualité où cet homme qui avait dû se donner comme esclave pour régler cette dette qui était la sienne, décidait de rester au service de ce maître puisque le maître le traitait bien, il avait tout ce qu'il avait besoin, voire même il avait de l'affection vers son maître. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait la possibilité pour cet homme de se donner, de s'offrir à son maître. Et le texte d'Exode 21 nous dit ceci, verset 5, « Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, et je ne veux pas sortir libre, Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Si nous faisons un parallèle entre le texte de l'Exode et ce que nous venons de partager ensemble par rapport au texte de Timothée, nous voyons que l'apôtre Paul nous invite, autant que serviteurs de Dieu, à nous donner, à accepter de servir le maître, non pas pour une dette qui doit être réglée, parce que qui d'entre nous pourra jamais régler sa dette par rapport à son péché? Mais l'apôtre Paul nous invite à aller plus loin, par amour. Par amour de Christ, donne-toi à lui-même comme serviteur. Et en réalité, il est question pour nous d'avoir une attitude de serviteur, puisque le maître est quelqu'un d'aimable, quelqu'un de juste, quelqu'un de bon. N'oublions pas tout ce que Jésus a fait, pas seulement pour les hommes de la génération qui ont pu véritablement bénéficier déjà de sa présence physique, mais encore pour nous aujourd'hui. Le bien que Dieu déverse par Jésus-Christ, le salut, le pardon, la guérison divine, l'intervention de Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Dans les versets 21 et 22 de Timothée, nous avons lu et on le relit ensemble. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dernier avertissement, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si on faisait une courte analyse, Dieu cherche, désire, appelle à être des hommes éprouvés, testés, certifiés par le sceau de Dieu, le Saint-Esprit. C'est ainsi que Paul engage Timothée à être, à vivre, puisque Paul lui-même, il s'était donné pleinement à Dieu. Il s'était donné pleinement à Christ, au point même d'offrir sa vie. Et c'est ainsi, en effet, que l'apôtre Paul terminera sa vie ici-bas. Il la donnera. Il sera, en effet, tué parce que il confesse le nom de Jésus-Christ, parce qu'il aime Dieu, parce qu'il aime le message de l'Évangile. Et rien ne le fera reculer par rapport à son engagement et au don de soi-même vis-à-vis de Dieu. Il est question d'être un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier qui exécute la volonté et les projets du maître. Un ouvrier qui n'est pas là pour discuter avec le maître et lui dire « Écoute, moi je sais mieux que toi », mais quelqu'un qui sait que le maître a déjà une vision qui va bien plus loin. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui dispose son cœur, mais toutes ses énergies, à accomplir ce pour lequel le maître l'a appelé. Ce à quoi le maître l'a disposé. Il est question de dispenser droitement la parole de la vérité, être droit, exact, conforme. Conforme au droit, conforme aux règles, même les règles sociales. Question d'équité, être trouvé juste, pieux, innocent. Et le texte continue, il dit donc, « Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur. » Peut-être certains se seraient dit « Mais qu'est-ce qu'ils viennent voir ces vases au milieu de cette discussion ? Pour quelle raison il est question des vases ? Il est question de savoir quel type de vase nous voulons être. En effet, si nous reprenons le texte de Timothée, il dira que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Mais si quelqu'un se conserve pur et s'abstient de l'injustice, du péché et de tout ce que nous avons déjà évoqué, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors, question pour nous encore ce matin, quel type de vase sommes-nous? Quel type de vase voulons-nous être? Sommes-nous prêts à être sanctifiés? Sommes-nous prêts à nous laisser sanctifier, purifier, laver et garder cette sanctification, mettre tout en œuvre pour que notre vie demeure dans la sanctification jour après jour, pour finalement être utile à son maître? Plus notre vie elle est propre, plus notre être est utile entre les mains de Dieu. Si un jour on demandait un verre d'eau à quelqu'un, ou on offrait un verre d'eau à quelqu'un, je pense que chacun d'entre nous aurait le soin de vérifier que le verre dans lequel on nous offre à boire ou on donne à boire soit propre. Mais si le récipient devait être sale, serions-nous prêts à boire? Serions-nous prêts à offrir un verre d'eau dans ces conditions-là? Ou est-ce qu'une certaine honte, une certaine gêne apparaîtrait sur notre visage? Et combien de questionnements on serait là en train de se poser en disant « est-ce que je vais boire ou pas ?» Ou est-ce que c'est bien ce que je fais, offrir un verre d'eau dans un verre qui n'est pas propre? Quel type de vase voulons-nous offrir à Dieu? Un vase pur? Un vase sanctifié? Vous savez, on ne peut rien cacher à Dieu. Dieu sait exactement quel type de vase nous sommes. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous appartenons au peuple de Dieu. Nous sommes sa créature. Qui mieux que lui peut nous connaître? Si nous faisons de nos efforts une manière de vivre, si nous désirons au plus profond de nous-mêmes de tout mettre en œuvre pour être comme Dieu à temps que nous soyons, alors peut-être certains pourraient se dire ce matin, mais j'ai tellement essayé, j'y arrive pas. Je voudrais vous dire que ça ne sera jamais par nos propres efforts. Mais néanmoins, faisons la part qui nous revient. Néanmoins, ne restons pas en arrière en attendant que tout vienne de l'extérieur, que tout nous tombe, excusez-moi, cuit déjà entre les mains. Seigneur, attends notre part. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, fais ta part. Et l'apôtre Paul nous dit encore ce matin, fais ta part. Il me le dit à moi, mais en même temps, il le dit à chacun d'entre vous. Faisons notre part. J'aimerais terminer avec un texte qui se trouve dans le Lévitique, au chapitre 8, versets 23 et 24. Lévitique, chapitre 8, versets 23 et 24. C'est Moïse qu'il va agir d'une certaine manière envers Aaron, son frère, et ainsi les enfants d'Aaron qui vont être appelés à être sacrificateurs de l'Éternel. Ils vont avoir une charge, une responsabilité. De la même manière que Paul appellera Timothée à servir Dieu, puisque Timothée avait reçu un appel de Dieu, il va l'amener pas après pas à grandir, à se former, à servir le Seigneur. Moïse avait eu cette responsabilité de la part de Dieu de consacrer Aaron et ses fils au service de l'Éternel, puisque Dieu les avait choisis. Il en était ainsi dans l'Ancien Testament. Dieu a choisi ses serviteurs. Il en est ainsi encore aujourd'hui, où Dieu choisit ses serviteurs, choisit et appelle à son service. Et Moïse fera quelque chose de particulier. Mais je vous invite à lire ensemble ce texte, Lévitique chapitre 8, versets 23 à 24. Moïse égorgea le bélier, pris de son sang, et omit sur le lobe de l'oreille droit d'Aaron, sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, et mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit. Que veut-il dire tout ça? Est-ce que c'est juste de la symbolique? Est-ce que c'est un rituel? Non. Comprenons bien l'aspect spirituel. En réalité, cet appel au service de Dieu faisait qu'il y avait une consécration. Et quelle qu'il soit la volonté de Dieu, elle devait être exécutée selon le désir de Dieu. Aujourd'hui, il en est de même. Aujourd'hui, nous sommes appelés de même à obéir à la voix de Dieu, à ses ordonnances, ses préceptes, non pas comme un fardeau, mais comme un désir venant de notre part de l'honorer en tout ce que Dieu attend de nous. Dans un ministère comme celui d'Aaron et de ses fils, tout leur était, ils étaient appelés, comme nous aussi encore aujourd'hui, à être sanctifiés, à se donner pleinement, à s'offrir à Dieu. Alors, le sang posé sur le lobe de l'oreille, entendre, en toutes circonstances, entendre la voix de Dieu. Encore aujourd'hui, on a besoin de dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à entendre ta voix, à savoir écouter ce que tu me dis, pour obéir, pour agir fidèlement. Après, il est question du pouce droit, la main, l'action, pour accomplir toute chose avec vérité, œuvrer dans la sainteté. Dernier point, l'orteil du pied. Il est question de prendre la bonne direction, de marcher dans la voie et dans la volonté de Dieu. Généralement, le côté droit est le plus fort, le plus actif. Chacun d'entre nous, dans notre manière d'être, nous sommes appelés à être actifs pour le Seigneur, à donner le meilleur. Encore aujourd'hui, nous pouvons demander au Seigneur de oindre notre vie tout entière pour que chaque partie de notre corps obéisse à sa volonté, à son amour. Je disais tout à l'heure, peut-être chacun a pu dire déjà, mais j'ai fait des efforts, je n'y arrive pas. Nous sommes invités, nous aussi, non seulement à faire notre part d'efforts, mais aussi à compter sur le secours de Dieu. Si nous faisons un pas vers Dieu, nous qui sommes tellement petits, quelle est la dimension du pas que Dieu fera envers nous, lui qui est si grand? Il sera toujours, lui, à venir beaucoup plus vers nous que nous serions nous capables d'aller vers lui. Et c'est pour cela qu'encore ce matin, je vous encourage à faire ce petit pas, à vous approcher du Seigneur, à vous donner au Seigneur. Prenez une décision. Efforcez-vous. Faites votre part, placez-vous entre les mains de Dieu, et Dieu fera tout ce qu'il faut pour faire de vous l'ouvrier, l'ouvrière dont il a besoin, et qu'à lui et à lui seul en soit toute la gloire. Fermons nos yeux et prions un instant ensemble. Père céleste et Dieu miséricordieux, ta parole encore aujourd'hui nous invite, Seigneur, à avancer. La volonté qui est la tienne est celle de nous amener, Seigneur, pas après pas, à nous rapprocher de toi. Seigneur, toi, tu ne restes pas immobile. T'as tellement déjà fait et tu es encore prêt à faire tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Seigneur, du moment que nous acceptons de devenir tes enfants, nous recevons le salut. Nous passons de la mort à la vie. Néanmoins, il est à nous de prendre cette décision. Seigneur, du moment que nous prenons ta main, Seigneur, ta main nous conduit. Et tu nous demandes encore, Seigneur, de te faire confiance jour après jour. Seigneur, je voudrais te prier encore ce matin. Pour chacun. Pour que tu puisses, Seigneur, secourir tous ceux et celles qui, Seigneur, ce matin sont peut-être fatigués dans la marche, éprouvés, qui peut-être même se sont arrêtés. Seigneur, ce message ce matin, c'est pour les encourager à se relever, à fournir encore cet effort, comme le coureur qui lui reste pas grand-chose pour couper la ligne d'arrivée. Seigneur, aide-nous à arriver jusqu'au bout de la course. Seigneur, le but de la course, c'est de franchir tous la ligne d'arrivée. Aide-nous, Seigneur. Sois le secours, sois la force, le courage de chacun. Père éternel, nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et qu'à toi et à toi seul soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen.